Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, Média.
Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver en ce vendredi 15 janvier, dernier jour avant le couvre-feu dont nous allons reparler évidemment.
Est-ce que vous avez déjà fait vos courses, Valérie?
Bah, je fais mes courses avant 18h moi, enfin, c'est vrai que c'était un petit peu le débat d'hier sur l'effet apéro, comme si la France entière prenait l'apéro. Aujourd'hui, comme tous les vendredis, les livres avec Gérard Collard et puis le club de la presse média avec aujourd'hui Thierry Moreau. Bonjour. Journaliste, ancien directeur de la rédaction de Télé 7 jours. Vous êtes aujourd'hui producteur Moscat Productions. Et puis Jean-Maxence Granier, bonjour. Président de Think Out et vous êtes consultant média. Et bonjour Gilles, je ne vous ai pas dit bonjour.
Non,
voilà,
bonjour,
je vous dis bonjour.
Bonjour Gilles.
Bonjour. Alors, bonjour, toutes les infos médias, on va revenir sur les tops.
Il y a plein de choses cette semaine.
Sur les tops et les flops, les différentes polémiques. On va en reparler dans un instant avec vous. La question du jour,
la question du jour, elle fait partie de l'actualité. On pourra en parler avec nos deux spécialistes. Est-ce que vous pensez que Canal+ a abandonné la Ligue 1 ou Canal+ est peut-être stratège pour payer vraiment pas cher la Ligue 1? C'est la question qu'on vous pose. Vous êtes déjà nombreux à vous connecter sur le site Twitter de Sud Radio. Vous nous dites oui à 62%. Vous pensez que Canal+ a abandonné la Ligue 1? Non à 38%. Vous pouvez continuer à voter et à donner votre opinion sur le compte Twitter de Sud Radio. Mais on en parlait, vous savez que la matinale avait comme invité l'ancien directeur de la communication de la Ligue. Et il nous disait en effet que ça va être très compliqué pour les clubs et que la Ligue, enfin, qu'ils risquaient de payer vraiment pas très cher le football.
Oui, et il y avait cette phrase hier qui a été rapportée, enfin que j'ai trouvée sur Twitter, qui rapporterait des propos, je mets du conditionnel, de Vincent Bolloré qui aurait dit « Je veux les voir à genoux dans une mare de sang à propos justement de ces droits du foot. » Donc on va en reparler dans un instant. Le zapping de Gilles, les meilleurs moments de ce qui s'est passé hier à la télévision.
Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping.
TF1 et France 2 ont une nouvelle fois Valérie cassé son antenne pour diffuser évidemment la conférence de presse de Jean Castex. Tout va bien, tout se passe bien Valérie, on est parfait, tout va bien. Et c'est grâce à vous.
Je pense sincèrement que notre stratégie à la fois préventive et réactive, cette stratégie qui restait cohérente dans la durée a été la bonne. Par ailleurs, les premières données dont nous disposons montrent que nous avons pu passer les fêtes de fin d'année sans flambée épidémique grâce au comportement responsable qui a été le vôtre, nous rappelant combien la lutte contre cette épidémie est aussi l'affaire de tous et de chacun.
Voilà, je vous applaudis, bravo. Vous avez été super à Noël et au Nouvel An, bravo. Ouais. Félicitations, pour ça on vous confine alors, pour vous remercier.
9 millions de téléspectateurs hier soir à 18h sur TF1 et France 2. Évidemment, à chaque fois, ce sont
des cartons, parce qu'on attend les annonces. Alors écoutez bien ce son, Valérie, si le confinement à 18h vous a révolté, regardons un peu ce qui se passe ailleurs. Hier, le Canada a autorisé officiellement le triage des malades. Les malades vont être triés au Canada. C'était hier sur Radio-Canada, dans leur journal, et un médecin en donnait les détails.
Là, c'est un score qui va être attribué à chacun des deux patients selon sa condition médicale. Puis s'il y a, par exemple, moins de 20 % de chances de s'en sortir malgré qu'il va aux soins intensifs, puis que l'autre patient a plus de chances de s'en sortir, bien, on va dire à la famille, au patient et au médecin qui va s'occuper de ce patient-là, non, on ne l'admet pas aux soins intensifs. C'est complètement déstabilisant de penser qu'on est rendu là, tu sais, en 2021, de devoir ne pas offrir des soins à quelqu'un qu'on considère qu'il en a besoin.
C'est un peu stupide, pardon, comme son, parce que c'est déjà ce qui se passe, parce que c'est ce qui explique les réanimateurs. Ils font du tri par principe.
Mais il n'y a pas un système de points officiel qui rentre et dans la loi.
Le point, non, mais c'est le principe même.
Là, si on n'a pas assez de points, on ne sera pas soigné. C'est ça l'info.
C'est pareil. Enfin, je veux dire, c'est pareil. En France, quand vous avez un engorgement, il y a un moment où il y a un choix à faire entre quelqu'un de 50 ans et quelqu'un de 90 ans. Enfin, quand on n'a pas le choix, on est obligé de faire un choix, justement.
Ouais, c'est un système qui est décidé, alors que d'habitude, c'est l'équipe des soignants qui fait le choix.
D'accord, je vois la différence.
Eh oui.
Allons-y.
Merci. Merci beaucoup. Hier, le spécialiste du fait divers Dominique Rizet sur BFM a révélé une chose intrigante dans l'affaire de la disparition de Delphine Jubilard.
Le compte Facebook de Delphine Jubilard, vous l'avez dit, disparu depuis un mois dans la nuit du 15 au 16 décembre alors qu'elle est partie promener ses chiens en pleine nuit, hein, vers 1h du matin. Ce compte s'est mystérieusement et brièvement réactivé hier, mercredi. Une personne s'est donc connectée sur ce compte et a envoyé un message vide qui a immédiatement été retiré. Ce message a été envoyé sur un compte Facebook auquel appartient Delphine Jubilard. Donc c'est un mystère dans cette affaire.
Ça, ça me fascine.
Ah bah oui, oui. C'est, alors, est-ce que c'est un hacker? Est-ce que c'est elle?
Ça remet une pièce dans la machine, ouais, en tout cas, une pièce, médiatique.
Chose incroyable. Hier, c'était dans Quotidien. Ils ont montré comment la France Insoumise a fait une conférence de presse. Alors, dans une pièce en bas, il y avait les journalistes devant un écran. Et à l'étage, il y avait Jean-Luc Mélenchon. Et ils avaient interdiction de parler à Jean-Luc Mélenchon. Après la conférence de presse, ils ont fait une visite des locaux. Et dans la visite des locaux, il y avait le bureau de Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc était là. Vous allez voir, le sens de l'accueil.
Bonjour Monsieur Mélenchon, on n'a pas pu vous poser de questions.
Pas des micros, c'est quoi cette histoire? On avait dit qu'on faisait ça?
Non, non, là, attendez, non, une seconde, mais oh là là là, j'ai pas de masque, ni rien moi.
Je vais pas mourir à cause de vous. Non, non, c'est juste un tour rapide, pas de questions.
Vous êtes gentil.
Et je croyais que vous deviez changer votre relation avec la presse.
Maintenant vous êtes gentil avec les journalistes.
Jamais de la vie, j'ai pas promis ça.
Ah si, vous avez dit que vous avez changé votre relation avec la presse.
Oui, mais c'est-à-dire qu'on va avoir une relation.
Sens de la caisse. C'était dans voilà. C'est à vous, hein, et non pas Quotidien. Ouais, quotidien, ça aurait pu être Quotidien, mais c'était dans
Quotidien,
dans
je ne sais pas si c'est dans votre zapping, mais il y avait un reportage absolument incroyable sur la visite de Jean Castex à l'hôpital de Metz. C'est-à-dire qu'on se demande comment, en période de Covid, on peut se dépasser avec 20 personnes, cette espèce de mise en scène complètement démente.
Je l'ai vu, je ne l'ai pas mis dans mon zapping parce que c'était l'image qui était importante.
C'est très long en plus, mais c'était assez surréaliste.
Et vous me l'auriez fait remarquer.
Ouais. Brigitte nous dit, Brigitte qui est une investigatrice, nous dit, il y a un paquet de piratage sur Facebook. Donc, pour revenir...
Peut-être, sur la formation Facebook. Voilà. Et pour finir, c'est notre question du jour sur la Ligue 1. Donc, comment sauver la Ligue 1? Est-ce que Canal Plus va sauver la Ligue 1? Eh bien, l'humoriste Pierre-Antoine Damcourt sur l'Équipe TV a proposé, pour s'en sortir, de sortir un album. Vous savez, les albums de soutien caritatif. Eh bien, il a proposé de sortir un album avec des chansons engagées. Petit florilège.
Cette saison-là, Média Pro avait piqué les droits. Canal Plus n'en voulait même pas.
Avec le tube de Francis Cabrel, Laisse-la pas mourir.
Moi je l'aime bien, ma petite Ligue 1. Je la regarderai même tout seul dans un coin. La laisse pas mourir.
Et les plus belles voix de la chanson française.
Qui a les droits cette fois?
Voilà. Effectivement, un certain nombre de questions. Et puis la question aussi, est-ce que la Ligue 1 vaut ce prix-là? Non. Donc,
mais ça ne vaut pas un milliard.
On va en reparler.
Ça ne vaut pas un milliard.
Ça vaut pas un milliard. Allez, on marque une petite pause. On revient avec les coups de cœur, les coups de gueule de Thierry Moreau, de Jean-Maxence Granier et Gilles Gransman. Et on se retrouve dans un instant. A tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. Média.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. On retrouvera Gérard Collard pour les conseils livres à 11h moins le quart. Je suis avec Thierry Moreau, journaliste, ancien directeur de la rédaction de Télé 7 jours, Jean-Maxence Granier, président de Think Out. Vous êtes consultant média. Vos coups de cœur, vos coups de gueule, commençons avec vous Thierry.
Le coup de cœur ou coup de cœur, c'est pour un doc qui est diffusé mardi prochain à 23h30 sur France 2 et qui raconte, qui s'appelle Les lycéens, le traître et les nazis. C'est à 23h30 et ça raconte l'histoire d'un réseau de lycéens qui s'appelle le Corps Franc Liberté, avec les plus jeunes résistants de France. Ils sont engagés dès 1940, certains avec 14 ans, et ils ont été trahis par l'un d'entre eux. Et donc beaucoup, 41 ont été massacrés au cours du massacre de la Ferté-Saint-Aubin le 10 juin 1940. Et quand vous regardez ce documentaire, vous avez les larmes aux yeux, parce que vous savez, quand on voit des gens qui parlent, alors en ce moment on parle beaucoup de résistance, de lutte, etc. Ces gens-là, ils ont montré ce que c'était que l'engagement, le courage, parce que quand on s'engageait à cette époque-là, eh bien on le risquait de sa vie. Et franchement, regardez ce documentaire, ça tire des larmes aux yeux. C'est signé David André et c'est époustouflant. Ouais,
dommage que ça passe si tard. Mais enfin, dommage maintenant, avec le replay, c'est avec vrai qu'il y a
il est déjà disponible sur le replay parce qu'il a été déjà diffusé sur une antenne régionale de France 3. Mais regardez-le, c'est vraiment exceptionnel.
Et puis là, c'est vraiment la privation de la liberté.
Là, c'est vraiment la privation de la liberté, ouais, c'est vraiment l'engagement.
Jean-Maxence, vous avez un coup de cœur ?
Mon coup de cœur, c'est, on va en parler, je sais, mais c'est vraiment la soirée d'hommage à Georges Pernoud ce soir, ouais, sur France Télévisions. Voilà, cette case mythique du vendredi soir qui était celle de Thalassa. 40 ans de télé, 3 générations de téléspectateurs, peut-être un âge d'or aussi qui disparaît avec ce journaliste. Voilà, donc c'est, je pense que c'est vraiment l'élément, ouais, important de la journée. D'accord. Et de la soirée.
Et oui, j'ai une grande soirée. Non, moi, un coup de gueule, vous savez, ouais, tant qu'à faire. Vous savez que la semaine dernière, le CSA a demandé à France Télévisions, au groupe France Télévisions, on se demande pourquoi ils ne le demandent pas ailleurs, de ne plus utiliser le mot « fake » dans le titre de ses programmes ou dans ses émissions. C'est la chasse aux anglicismes. Alors, c'est une décision qui avait été déjà en assemblée plénière prise le 4 novembre 2020. Elle s'applique à partir du 12 janvier. Et alors, ils ont attaqué assez fort, hein, en disant voilà, ils ont expliqué que la dénomination du mot fake à France Télévisions ne devait plus exister. C'est l'article 39 désormais du cahier des charges de France Télévisions. Moi, je trouve ça vraiment...
Non, mais c'est que fake ou tous les mots anglais ?
Non, c'est le mot fake en particulier, parce que, alors, il y a une émission, alors ils ont fait deux erreurs, ils ont fait une erreur au CSA, par exemple, dans le 20h, ils ont dit, vous avez une émission qui s'appelle Fat Shaking, il faut enlever ce mot, en fait, c'est faux, parce que la séquence qui dénoue un peu les fausses informations, ça s'appelle Faux et usage de faux, ça existe bien, c'est dans le 20h de France 2, par contre, sur France Info TV, il y a une émission qui s'appelle Vrai ou Fake, et donc ils vont devoir changer de titre pour enlever le mot fake. Je trouve qu'ils ont vraiment beaucoup de travail au CSA.
Ouais.
Ils ont vraiment tellement de choses à faire pour s'occuper.
Ils ont d'autres dossiers, mais je pense quand même que...
Ah, vous êtes d'accord
c'est bien,
avec ça ?
Je pense quand même que c'est bien qu'il y ait quelque part un garant de la langue française et de la façon de parler français. Ouais. Aujourd'hui, il y a un truc qui s'appelle l'infox. On voit très bien ce que ça veut dire. C'est une fausse information. Donc, on peut utiliser ce terme. Moi, ça me choque pas du tout. Alors, ils font ça, mais ils font aussi beaucoup d'autres choses, le CSA. Donc,
Vrai ou infox, c'est pas super vendeur.
On trouve un autre titre. La langue française, info ou infox.
Info, infox.
Faut demander à Thierry Ardisson. Il
est très fort. Papi et mamie.
Pas du tout. Là, c'est la protection de la langue française.
Alors, Jean-Maxence.
Un petit peu raison, c'est que les gens commencent à, pour dire faux ou qu'une chose n'est pas vraie, les gens commencent à dire c'est fake. Donc, ça passe un peu dans la langue, au-delà de l'expression fake news. Donc, ils n'ont pas entièrement tort.
Oui, enfin, voilà. Est-ce qu'il peut...
Mais pourquoi... c'est pas très joli, c'est vrai.
Mais pourquoi effectivement ne pas l'imposer, comme le dit Gilles, à toutes les chaînes ? On voit qu'il y a des newsrooms, des punchlines et autres titres d'émissions en anglais.
Ça devrait
être partout. Moi, je sais que j'ai souvent poussé ce coup de gueule en disant, il y a la journée de la francophonie, à chaque fois, on en fait des tonnes, etc. Et c'est pas du tout contrôlé. On devrait faire comme au Québec, quoi, avoir des mots français. Donc
surtout qu'on peut les inventer, c'est des mots français. Ça...
Donc ça satisfait site aussi.
Oui, satisfait site et en même temps, allons plus loin. Allons-y en disant que les titres d'émission ne doivent pas comporter de mots anglais.
C'est good.
Voilà, c'est good. moi j'ai un coup de cœur pour l'émission de Daphné Roulier, les grands entretiens sur LCP. Il se trouve qu'on l'a reçu et que j'ai été absolument bluffé par ces entretiens sur la résilience. Ça commence dimanche, c'est ça ?
Dimanche.
Avec Sylvain Tesson et avec Garouste, le peintre Gérard Garouste. Et c'est vrai que c'est vraiment très très fort et des entretiens dans lesquels ils disent des choses.
Il se livre.
Même Alexandre Jardin, qu'on peut juger un peu agaçant, explique des choses, raconte des choses sur sa famille qui ne sont pas sans rappeler ce que raconte Camille Kouchner dans son livre. Donc voilà,
et puis le dispositif télévisuel est assez fort parce qu'ils sont dans la pénombre et on ne voit vraiment que leur visage et ça rend d'autant plus fort les propos. C'est assez formidable.
Vous avez un coup de gueule ?
J'avais un coup de gueule sur les abrutis qui ont brûlé un poste TTF en Haute-Vienne, privant 1,4 million de Français de télévision et de radio. Je trouve, alors c'est un comité qui s'appelle le comité anti-5G un comité anti-5G en tout cas, ouais. Et qui se bat donc, et son monde. La 5G et son monde. Donc voilà, je trouve qu'il y a tellement OK pour enclencher des débats, OK pour les gens qui disent réfléchissons un peu, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je suis pro 5G, hein, mais, mais de là à brûler un poste EDF, on va tous le payer avec nos impôts, donc ça va nous coûter plus cher. Et puis en plus, ça n'est pas une manière. Et je trouve que cet écolo-terrorisme est quelque chose de dangereux. Donc voilà, je trouve que c'est une, d'une bêtise et d'une crétinerie absolue. Et voilà, je voulais plus
Ils ont privé la radio et la télévision. Et c'est toujours
pas la radio est remise, mais pas la télévision.
Pas la télévision, absolument.
Voilà. Jean-Maxence, un coup de gueule ?
Moi, ce matin, je suis tout amour. Pas de coup de gueule.
Oh, c'est bien. Jean-Maxence. Alors, moi, je voulais vous soumettre un énervement en regardant la fête de la chanson française, ou je ne sais plus comment ça s'appelait, samedi dernier, de voir du public. De voir un public plusieurs centaines de personnes, avec des masques, certes, mais qui étaient amassés comme dans un concert. Donc, alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer, Thierry Moreau?
Normalement, il y a des restrictions assez fortes, puisque, comme l'a rappelé hier soir d'ailleurs la ministre de la Culture, les émissions peuvent s'enregistrer en présentiel à condition qu'il y ait un respect du protocole, mais normalement, c'est sans public. Donc, ils ont dû avoir une exception, et en tout cas, ils ont dû avoir des protocoles très, très sérieux.
Pas à l'image.
Des gens qui arrivent par une entrée, qui sortent par une autre, et avec
ça, on peut le faire au théâtre aussi.
Ils étaient côte à côte, c'est la question que je pose. Ils étaient côte à côte, donc peut-être avec, il y avait des petits trous, mais globalement, ils étaient quand même amassés, certes avec des masques, donc est-ce qu'ils ont tous eu des tests PCR, mais on interdit les concerts, les spectacles, les cinémas, et là, on a un spectacle à la télévision avec du public.
Après, la différence avec les théâtres et le cinéma, c'est que c'est l'occasion de sortir qui est plus bridée que le fait de se contaminer dans un lieu.
De créer de la masse.
De créer de la masse, absolument.
Il a un coup de gueule ?
Non, je n'ai pas de coup de cœur.
Vous n'êtes qu'à mourir comme Jean-Maxence.
Non, c'est l'inverse, je n'ai pas de coup de cœur.
Ah bon, pas de coup de cœur.
Enfin, si, j'en avais un, mais vous me l'avez censuré.
Quoi ? C'était quoi ?
Non, mais on va en parler après. Ah bon. C'est l'investiture qui va avoir lieu de Joe Biden. Mais vous m'avez dit qu'elle n'a pas eu lieu, donc vous aviez raison.
Oui, mais vous anticipez, vous vous réjouissez
Je me réjouis de voir Lady Gaga chanter l'hymne américain. Non, c'est vrai qu'ils sont en train de mettre un dispositif, en tout cas, puisque les people, c'est vrai, ils sont plus de gauche que de droite, donc ils sont plus Joe Biden. Et donc, on a une liste incroyable de stars qui vont faire des émissions... Des directs et des happenings.
Donc,
je pense que ça va être quelque chose d'assez incroyable. Et donc, je me réjouis à l'idée de me dire qu'est-ce qu'on va voir mercredi en espérant qu'on ne verra pas une attaque.
Évidemment. Allez, à tout de suite oui, il y a une pub. À tout de suite, on se retrouve dans un instant.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Média.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, le vendredi, le club de la presse média avec aujourd'hui Thierry Moreau et Jean-Maxence Granier. Dans l'actualité média, il y a évidemment l'affaire Olivier Duhamel qui a occupé une très grande partie de l'espace médiatique. Camille Kouchner qui était sur France 5 avec un record d'audience pour la grande librairie avec un témoignage assez émouvant. Et puis, on évoquait une sorte de bombe à fragmentation puisque le livre de Camille Kouchner fait des victimes collatérales, à commencer par Alain Finkielkraut, avec entre autres Alain Finkielkraut qui s'est exprimé. Alors, je ne sais pas, on n'a pas le son qui sur la longueur, mais Alain Finkielkraut qui évoquait la possibilité d'un questionnement. Il disait que ça devait se passer devant la justice et il a été licencié. Thierry Moreau, vous trouvez-vous que LCI est allé trop loin ?
Moi, je suis pour la liberté d'expression. La seule question qui doit se poser quand quelqu'un s'exprime dans un média, c'est est-ce qu'il franchit une ligne qui est juridiquement, judiciairement condamnable. Là, on doit interdire quelqu'un qui dirait « j'aime bien Adolf Hitler », eh bien non, on le condamne, évidemment, parce que là, c'est condamnable. Là, ce qu'a essayé d'expliquer Finkielkraut, il a un développement assez complexe, et en général, quand on invite un philosophe à la télévision, c'est pour ça. Il a d'abord dit que c'était un crime abominable et inexcusable, donc il est très clair là-dessus, et simplement, il a tenté d'apporter une nuance en disant que tous ceux qui tentaient d'apporter une explication, et dans ces explications, ils donnent le consentement, etc., et là, il a une parole qui est où il dérape, parce qu'il dit c'est pas pareil entre un enfant de 14 ans et un enfant de 5 ans. Alors, Pujadas le recadre.
Il évoque la possibilité d'un consentement.
Donc, Pujadas le recadre, mais la question c'est est-ce que c'est punissable devant un tribunal ? Non. Donc, je pense que quand on invite un philosophe avec une libre parole, eh bien, il faut le laisser parler, le recadrer quand il dit une bêtise. Et là, Pujadas l'a fait. Donc, je pense qu'il mérite suffisamment. Alors, il aurait pu sauter plus fort de sa chaise et être plus virulent. Ça aurait peut-être donné une séquence qui aurait été dans un zapping. Il l'a recadré en disant non, vous pouvez pas dire ça. À 14 ans, on est un enfant. Donc, il l'a dit, il a fait son travail, il a tenu l'antenne. Le seul truc, c'est que je pense que quand on invite Finkielkraut ou quand on invite les philosophes, Et d'ailleurs, vous rappeliez tout à l'heure, on se disait hors antenne qu'il y avait un papier de
Julia de Funès.
De Julia de Funès dans le Figaro ce matin qui explique très bien ça. Quand on invite quelqu'un qui a une forme complexe de raisonnement, il faut le laisser parler.
Oui, ou débattre, ou discuter avec lui.
Ou discuter, ou le contrer.
Alors, Jean-Maxence Granier.
Non, moi je suis pas tout à fait. Je suis assez critique avec cette prise de parole de Finkielkraut. Je vais vous dire pourquoi. Après, moi je trouve que LCI est un peu dans ambivalente puisque en fait Finkielkraut fait du Finkielkraut, c'est-à-dire ce qu'il dit là, il l'a déjà dit avant.
Absolument.
C'est des arguments qu'il a déjà développés et c'est un peu bizarre de demander à quelqu'un de venir et en plus le Finkielkraut de la télévision qui n'est pas celui de la radio ou des écrits et qui est souvent excessif. Et oui, il y a les précautions d'usage, mais il est quand même dans un oui mais. Il finit par expliquer qu'il y a la question de l'âge de la victime et du consentement qui sont exactement les arguments donnés par exemple par les parents de l'auteur de la grande familia, c'est pour excuser le crime. Donc il est dans quelque chose de difficilement acceptable dans son propos et il l'a déjà fait à propos de Polanski et de l'âge de Samantha Geimer et là il recommence. Après, est-ce que ça vaut exclusion et est-ce qu'il a été assez remis en cause dans son propos sur le plateau lui-même, ce qui était le lieu pour le faire? Ça, c'est une question. Mais quand il dit « d'abord, on parle d'un adolescent et c'est pas la même chose », c'est exactement ce que dit Olivier Duhamel, enfin le beau-père de l'autrice, c'est-à-dire « oui, mais tu avais 15 ans ». Et là, il y a vraiment une conception de ce genre de situation qui est mal comprise. Et là, je ne suis pas sûr que ce soit le philosophe qui s'exprime, mais plutôt la personne qui a une certaine façon de voir les choses, une idéologie, une vision du monde.
Et je pense que c'est plus audible dans l'époque aujourd'hui, ce type d'argument. C'est-à-dire et Jean-Maxence a raison de rappeler qu'il a défendu Polanski, il a défendu DSK, il a défendu Denis Baupin, il a défendu Nicolas Hulot au moment de l'affaire Hebdo. Donc il y a une...
Mais l'argument de l'âge...
Mais
finalement, on est d'accord, je suis tout à fait d'accord, il faut combattre cet argument de l'âge qui n'est pas un argument. Mais à côté de ça, je suis désolé, l'argumentation qu'il développe sur le fait que dès qu'on commence à rentrer dans la complexité d'un dossier que personne ne connaît vraiment, l'occurrence, eh bien, on tombe tout de suite sous le... Alors lui, le problème, c'est que derrière, il a ce mot qui est plus que malheureux, inexcusable, en donnant l'excuse de l'âge qu'il a effectivement déjà ressorti par ailleurs et qui n'est pas un argument.
Mais si c'est inexcusable, est-ce qu'on peut comprendre qu'LCI décide de se séparer de lui en disant,
il faut à l'antenne le recadrer, lui dire que ça n'est pas un argument. Après, s'il a dit quelque chose qui est condamnable, on le condamne devant
un
tribunal.
Mais effectivement, on est dans le débat d'idées. On n'est pas. Ça dépend d'où on parle et où on parle.
Mais il n'est pas journaliste, Finkielkraut. Il n'est pas journaliste.
Non,
il est philosophe.
Ça veut dire que n'importe qui peut dire n'importe quoi
Valérie,
si on n'est pas journaliste.
Jean-Maxence, je crois que c'est le reflet de notre société. On est dans une société où aujourd'hui, il faut faire le buzz parce qu'il y a trois chaînes, il y a BFM, il y a LCI, il y a CNews, ils se font des guerres et de la concurrence. Donc on invite des gens dont on sait que les propos vont faire polémique ou vont faire du buzz.
Exactement.
On le sait bien. Oui. Donc on les invite, ces gens-là. Évidemment que si on prend un médecin spécialiste de la pédophilie, on risque pas d'avoir de reprise dans les journaux de gens qui font des buzz. Avec Finkielkraut, on va avoir du buzz et voilà pourquoi il intervenait toutes les semaines sur LCI. Et la deuxième chose...
On peut pas dire qu'il y ait de buzz chaque semaine avec Finkielkraut.
Un petit peu quand même. Hein. Ouais. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'on est aussi le reflet d'une société qui ne vit et qui ne réagit qu'aux réseaux sociaux. Ce que fait le gouvernement d'ailleurs, dès que les réseaux sociaux râlent, on ne prend pas les bonnes décisions parce qu'on se laisse influencer par les réseaux sociaux. Là, LCI a vu le tollé qui démarrait sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas pris le temps de réfléchir, de se réunir et de se dire, puisque la décision est venue dans la demi-heure sur les sites internet. Et je trouve qu'on devrait réfléchir à cette société qui est dirigée par une poignée d'influenceurs et de réseaux sociaux.
Tyrannie de la minorité. Voilà. Jean-Maxence.
Alain Finkielkraut, je pense même qu'il a un espèce de plaisir à occuper cette position. Et d'ailleurs, dans sa phrase, il le dit. Il dit, à chaque fois que vous voulez faire une distinction, ça apparaît comme une absolution. À chaque fois que vous recherchez la spécificité, on vous accuse d'un peu de complicité de crime. Il aime occuper, bizarrement, lui qui remet en cause les discours victimaires, il aime bien être une espèce de victime médiatique condamnée au silence. Et pour ce faire, il arrive à dire des choses très excessives, même si, évidemment, il a
question.
On ne peut pas ne pas condamner l'inceste, mais revenir sur la question de l'âge ou revenir sur la question du consentement et comment dire montrer que là il y a une marge de manœuvre et peut-être qu'on n'est pas sûr d'eux, c'est une façon de donner l'absolution au
bourreau,
au patriarcat,
au bourreau.
Mais après,
vous avez raison.
Et puis après, si LCI veut garder cette logique d'être une chaîne sans peur et sans reproche, on pourrait se poser la question.
Pas sans peur et sans reproche, parce qu'il s'y dit des choses aussi. Oui.
On pourra se demander à LCI pourquoi il garde Daniel Cohen-Bendit tous les dimanches.
Il y a cette question qui, je pense, est très prégnante et qui va se poser à un moment.
Pour être cohérent et avoir une cohérence.
Mais peut-être
qu'il n'y a pas d'affaire juridique en cours concernant Daniel Cohen-Bendit. Je suis désolé.
Pourquoi les médias l'interrogent sur ces sujets si ce n'est pour que vouloir consciemment le dérapage ?
C'est ce que dit Stéphane. C'est déjà ce qu'il va dire à l'avance.
Bien sûr. Vous avez raison. Parlons d'autres choses, de foot, effectivement, les droits du foot. Alors déjà signalé que le journal L'Équipe est en grève, hein. Ces journalistes depuis six jours. Ce qui est quand même assez inédit, assez étonnant. Et donc le foot, parlons-en, avec les droits et cette espèce de coup de tonnerre quand même qui a eu lieu avec Mediapro et les droits du foot. Qu'est-ce qui va se passer pour la diffusion du foot ? Est-ce que Canal+ va racheter à la CAF ? Est-ce que cette ligue... Mais combien vaut la Ligue 1 aujourd'hui ?
Elle vaut moins cher que ce qu'elle a été vendue à Mediapro, ça c'est clair. Tout le monde a dit, quand Mediapro a eu le contrat, que c'était économiquement pas viable. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas, sauf à avoir 4 millions d'abonnés et des abonnés chers, rentabiliser ce contrat. Donc de toute façon, c'était trop cher. Il y a eu une bulle, elle a explosé, maintenant il faut ramasser les dégâts. Canal+ joue son rôle. Je ne pense pas, dans votre questionnaire, question que vous avez posée aux auditeurs, c'est est-ce que Canal+ tue la Ligue 1, ne veut plus la Ligue 1 ? Non, ils la veulent, mais au vrai prix et à un prix bas. Aujourd'hui, la dernière fois que ça avait été négocié, c'était aux alentours de 700 millions d'euros. Canal+ a dit implicitement, ça ne vaut pas plus que ça déjà, et en plus le produit s'est dégradé de plus depuis. Donc ça veut dire qu'ils vont l'acheter moins de 700 millions d'euros, et ils vont essayer de l'avoir le plus bas possible. Ouais. C'est pour ça qu'ils demandent un nouvel appel d'offres.
Un nouvel appel d'offres. Jean-Maxence ?
Oui, moi je suis sensible aux aspects psychologiques. Hein. La vengeance est un plat qui se mange froid. Hein. Ce deal, il date de 2018, et il était très mal passé évidemment pour Canal, et là on sent vraiment qu'ils veulent faire aller à Canossa la Ligue et jouer les enchères à la baisse, parce que ils sont en situation de force. Après, c'est vrai qu'il y a une dégradation à cause des circonstances là auxquelles personne ne peut rien, une dégradation objective de la valeur de ce spectacle sportif et des difficultés, mais on sent bien qu'il y a un petit côté on va reprendre la main et c'est nous qui avons
les cartes.
Moi je pense je crois pas à la vengeance et au fait de faire plier, mettre à genoux la Ligue 1. Je pense que c'est une logique d'un cynisme absolu. C'est une entreprise qui cherche à payer le moins cher possible ce truc qui est à leur portée, puisqu'ils sont plus que les seuls à pouvoir acheter ça.
Oui, mais il y a peut-être une amertume en disant vous voulu jouer au plus malin. On a les caméras,
Je pense que les gens qui dirigent les grandes sociétés aujourd'hui, y compris Canal+, sont au-delà de ça. Alors peut-être qu'on leur fait interroger sur l'amertume, mais je pense que leur principal objectif, c'est de le payer le moins cher possible pour le proposer à leurs abonnés.
Bien sûr, le moins cher possible, absolument.
J'ai lu une interview de Maxime Saada, il dit, quand même, il y a une phrase où il dit « on n'oublie pas ». Voilà.
Oui, on n'oublie pas, absolument. Voilà. Stéphane nous dit « le foot est une bulle spéculative, la preuve », et Véronique nous dit « Thierry Moreau défend LCI ». Non, c'est l'inverse, Thierry Moreau ne défendait pas LCI. Vous n'avez pas bien compris, il a dit que Finkielkraut ne méritait pas d'être viré. Voilà, je le précise.
Je glisse notre sondage et notre question du jour, puisque voilà, on va finir cette thématique là-dessus. Vous pouviez aller voter sur le site de Sud Radio. Eh bien oui, à 63%, vous pensez que Canal+ a abandonné la Ligue 1, non, à 37%. Vous pouvez continuer de voter sur le site.
Il n'y aura pas d'écran noir, il faut le dire.
Non, il n'y aura pas d'écran noir. Il se passera.
Il y aura une prorogation de quelques semaines, et je pense que l'appel d'offres en 3 semaines sera bouclé et le problème sera réglé mi-février.
Voilà.
Les obèses
si vous voulez. Non, la mort de Georges Pernoud, effectivement, avec cette émission que vous évoquiez, Jean-Maxence, ce soir. On rappelle quand même qu'il a été poussé vers la sortie, Georges Pernoud.
Oui, parce qu'il fallait tourner la page et rajeunir un petit peu l'émission. Ça fait partie de ces gens qui sont des monuments de télévision, puis qui ne comprennent pas qu'à un moment il vaut mieux partir.
Et puis les audiences, ce n'était pas au top.
Jean-Maxence ?
Non, ce soir, il faut vraiment regarder l'entièreté de ces 40 années ouais. et pas se focaliser sur les dernières années, peut-être plus compliquées, plus difficiles. On se rend compte aussi que Georges était sans doute des problèmes de santé puisqu'il ouais. disparaît finalement tôt. Et là, vraiment, ce soir, il ne faut ouais. pas revenir sur quelques difficultés récentes, mais célébrer 40 ans d'une télé de haute qualité quand même.
Voilà. Bon, on n'aura pas eu l'occasion de revenir sur Karine Le Marchand. Effectivement, le flop de son émission, 1 million de téléspectateurs, c'est peu, c'était prévisible selon...
1 million 8,
oui.
1 million 8, parce que c'est une véritable télé-réalité. C'est tout simple. On a beau mettre tous les enrobages tout autour, c'est du voyeurisme et c'est de la télé-réalité autour de l'obésité. Et ça ne rend pas service, je pense, aux gens qui ont ces problèmes-là.
Je sais pas. Moi, j'avais trouvé, on l'avait reçu, Karine Le Marchand. Je trouvais qu'elle avait... qu'il y avait un accompagnement qui était fait.
Quand on voit une des candidates qui risque d'y passer sur une table d'opération, est-ce que c'est pas du voyeurisme? Quand on fait voir, on demande aux gens de se regarder dans la glace jusqu'à ce qu'ils pleurent, est-ce que c'est pas du voyeurisme? Excusez-moi, je trouve ça.
On verra ce que donneront les prochaines, parce qu'il y a 3 semaines d'émission.
Ouais, absolument.
Donc,
il y en a lundi, on pourra en reparler vendredi
absolument.
Prochain.
Merci.
Je remarque
à vous,
que Valérie, que nous n'avons pas parlé des anges de la télé-réalité à la Réunion, et je sens
que ça mérite.
Je sens que vous n'avez pas voulu.
J'ai fait de la censure.
Je suis très embêté.
Je vous ai censuré dans votre sommaire.
Pour moi, on aurait dû en parler en premier.
Merci à tous les trois. Dans un instant, Gérard Collard et les livres. À tout de suite.